Bienvenue dans 3W. Le premier podcast à vous faire entrer dans un monde mystérieux, celui de la cybercriminalité, là où se croisent des trafiquants, des pédocriminels, des mafieux et des cybercriminels d'État. Un monde où les nouvelles technologies pourraient être les armes puissantes d'une guerre qui s'invite cette fois bel et bien en Europe. Car c'est au cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine que nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode. Avec une hypothèse grandissante. Que cette lutte armée ne se joue pas seulement dans les airs, en mer ou sur terre, mais aussi peut-être sur le dark web et les réseaux sociaux. Trolls, fake news, manipulation, attaques cyber et intimidation nucléaire, voici les mots que l'on entend au loin tels une rumeur persistante. Dans ce contexte inédit, j'ai cherché à y voir plus clair pour tenter de comprendre ce qui se tramait vraiment. Mes recherches m'ont mené du côté du Predictalab, un site de veille informationnelle qui repaye les failles informatiques. Baptiste Robert en est son fondateur. Certains le présentent comme un hacker éthique, lui préfère dire qu'il est chercheur en cybersécurité. Direction des bureaux secrets au cœur de Paris. Pas besoin de montrer patte blanche pour rejoindre mon interlocuteur, Baptiste Robert sait déjà tout de moi. Ne me demandez pas comment il a fait, seul lui en a le secret. Son pseudo, Elliot Alderson, héros de la série américaine Mr. Robot sur l'univers du hacking. Son identifiant Twitter, qui l'a rendu mondialement connu, @fs0c131y. Et sur son passeport français, bien sûr, Baptiste Robert. Son savoir-faire cyber n'est plus à prouver, et c'est sans doute pour cela qu'il pourra nous confirmer si l'invasion de l'Ukraine par la Russie finira par se transformer en une énorme guerre du futur.
La guerre cyber qu'on nous avait entre guillemets promis, qu'on nous avait survendu, n'arrive pas vraiment. Il n'y a pas eu d'incident cyber extrêmement important pour le moment, il n'y a pas eu une activité plus débordante que ça, donc il y a des choses par-ci, par-là, mais il n'y a pas de guerre cyber au sens propre du terme pour le moment, parce que cette guerre, en fait, elle n'a pas été préparée sur beaucoup d'aspects, sur le plan militaire. On peut voir qu'ils avaient prévu de prendre Kiev beaucoup plus rapidement que ça, en 2-3 jours, et donc la guerre cyber ici qu'on attendait de voir venir n'arrive pas. Alors, il y a des choses quand même, il y a eu des initiatives, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un groupe qui a été formé par l'Ukraine qui s'appelle IT Army of Ukraine, où on a effectivement des volontaires qui essayent de faire principalement des attaques par déni de service. C'est-à-dire, ça va être de submerger des sites internet officiels, tous en même temps, de manière à les rendre inaccessibles.
Alors, pas de guerre cyber, mais des attaques tout azimuts, des bombardements, des réfugiés, des blessés et hélas des morts. Mais aussi ces rumeurs, ces espoirs, les actions des uns et des autres avec des médias internationaux qui font tout pour relayer la moindre information liée à ce conflit. Si la guerre n'est pas cyber, elle semble se jouer sur un autre tableau.
Sur le volet de la communication, il y a effectivement aujourd'hui une guerre de l'information à proprement parler. Aujourd'hui, on le voit dans cette première phase du conflit, l'Ukraine a clairement remporté la partie sur cette première phase. Ça peut changer, tout est changeant, tout bouge, donc le président Zelensky, le président ukrainien, est extrêmement bon en termes de communication. Il a réussi à créer vraiment un personnage de héros de la nation qui va défendre son peuple et qui va résister jusqu'au bout. Tout le monde manipule tout le monde. C'est un peu l'idée générale à tous les étages. L'État ukrainien a besoin de mobiliser ses troupes. Et la Russie, essaient de faire passer entre guillemets la pilule en disant voilà, on y est allé pour une bonne raison. On avait une bonne raison et c'est pas juste parce qu'on voulait récupérer l'Ukraine. Et donc il y a une manipulation sur différents plans et c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux politiques internes pour la Russie, des enjeux historiques, il y a des enjeux sur des questions plus d'actualité. Tout ça s'inscrit dans une histoire de plusieurs pays, sur des relations. C'est très très compliqué.
Dès lors surgit derrière toutes ces complications un spectre, celui du KGB, le fameux service de renseignement de l'URSS post-Staline. Et on se dit que dans le domaine de la manipulation, le pouvoir russe finira par prendre l'avantage et écraser d'abord les Ukrainiens et ensuite
Et effectivement, la Russie a une expertise en termes de désinformation. On l'a vu ces dernières années, on l'a vu notamment sur l'élection de Trump, on l'a vu ensuite sur beaucoup, beaucoup d'autres opérations de désinformation. Au-delà de l'expertise, ils ont aussi une force de frappe qui est qu'il y a ce qu'on avait appelé l'usine à trolls, où on avait un bâtiment entier avec des gens qui étaient payés juste pour faire ça. Cette expertise-là, ce qu'on peut voir actuellement, et ça peut changer, aujourd'hui, elle n'a pas vraiment été utilisée parce qu'elle n'avait pas été prévue. Une opération de désinformation, ça, c'est comme le reste, c'est comme une opération militaire, ça se prévoit. Ça demande des moyens, ça demande de la motivation, ça demande des hommes. Comme ils avaient prévu, encore une fois, de prendre Kiev très très rapidement, de terminer cette opération spéciale, comme ils l'appellent très très rapidement, ils n'avaient pas prévu de durer sur le temps long. Et donc en termes d'organisation, eh ben, il n'y en a pas. Et de fait, cette expertise en désinformation, ils ne l'utilisent pas. Alors comment on désinforme ? C'est déjà la construction de narratif, de dire, voilà, on va essayer de raconter cette histoire, cette histoire, cette histoire. On utilise des canaux de communication, ça peut être par exemple une flopée de comptes sur TikTok, une flopée de comptes sur Instagram, des comptes qui sont infiltrés dans des communautés particulières. Ça peut être la création d'événements sur Facebook, des événements par exemple qui peuvent être contradictoires. Et donc, par exemple, il y a un narratif aujourd'hui qui est en train d'être poussé par la Russie qui était de dire on a envahi l'Ukraine parce qu'ils étaient en train de préparer une bombe atomique. Et donc c'est pour ça qu'on a pris Tchernobyl en premier, parce qu'il y avait un risque, ils étaient en train de créer une arme. Il y a un narratif qui commence à prendre tranquillement, qui est que en fait les États-Unis auraient des labos en Ukraine. C'est dans ces labos qu'ils ont créé le Covid et que du coup la Russie voulait aller reprendre ces labos. Et ça prend beaucoup, par exemple dans les milieux anti-vax. Les milieux anti-vax sont clairement pro-russes aujourd'hui et le premier défenseur de cette guerre en Ukraine sont tous ce milieu anti-vax. Donc c'est tout ce petit monde en fait est dans une espèce de bulle et trouve des points de entre guillemets des points de liaison là où ils ont envie d'en trouver et s'accapare en fait tous les narratifs poussés principalement par la Russie. La Russie est experte là-dedans, c'est de vraiment de jouer là où ça fait mal. Il y a des choses qui prennent plus ou moins. Aujourd'hui, on voit que ça prend pas trop. Donc, ils ont pas beaucoup d'alliés à l'extérieur. Ils ont même à l'intérieur, ils ont une contestation qui va devenir de plus en plus vive parce que économiquement, ça va devenir beaucoup plus compliqué avec les sanctions. Et de fait, quand les gens ont plus à manger, on perd de l'argent, c'est beaucoup plus dur de leur faire passer des choses.
Baptiste Robert se veut rassurant. Il sait expliquer. Il est calme. Il est optimiste. Mais quid des attaques nucléaires ? Il n'y a plus d'iode dans les pharmacies. Pourquoi les gens réagissent ainsi ? Certaines banques pourraient être même piratées par des oligarques russes. Y aura-t-il suffisamment de blé ou encore d'essence ? N'essaye-t-il pas de me cacher les vrais risques engendrés par cette guerre ?
Il y a aujourd'hui une vigilance du monde entier cyber. Et plus le temps est long, peut-être que la Russie va en profiter pour s'organiser. Peut-être qu'il va y avoir des opérations qui vont se dérouler. Et donc, c'est à nous de faire attention, de regarder ce qui se passe, s'il y a effectivement des tentatives, des attaques, s'il y a des opérations de communication, des opérations de désinformation. En cyber, on peut toujours dire « Ah, si on attaque une centrale, il va se passer ça. Si je suis là, si... » Voilà. Effectivement, on peut imaginer tous les scénarios possibles et inimaginaux. Est-ce que c'est réalisable ? C'est ça la vraie question. Il faut vraiment distinguer le fantasme du film hollywoodien où on tape sur l'écran et en 15 secondes, ils sont rentrés dans les serveurs du FBI. Ça fonctionne pas comme ça. Y a des choses qui sont réalisables. Une opération pour rentrer dans une infrastructure critique, les centrales nucléaires, les hôpitaux, tout ça, c'est ce qu'on appelle des organismes d'importance vitale. C'est réalisable par souvent des entités étatiques ou des organismes supportés par des entités étatiques, mais ça nécessite beaucoup de compétences, beaucoup d'équipes, beaucoup de temps, de motivation, d'argent. Ça se planifie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est pas impossible, mais c'est très très compliqué. La cyber, c'est pas que de la technique, c'est aussi beaucoup de politique, c'est aussi beaucoup de géopolitique. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller aujourd'hui pirater une centrale française ? Pas forcément. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, ça ne sert à rien. Et au contraire, quand on est un attaquant avancé, quand on est un attaquant qui a mis tout ça en place, à ses équipes, à planifier, à travailler 6 mois, 1 an, 2 ans sur une opération, j'ai pas envie de cramer mon opération en 4 secondes et demie. Je préfère un bon attaquant, c'est un attaquant qui va être dans un coin et qui va regarder passer les fichiers, l'activité, qui va prendre de l'information. Et c'est plutôt ça qui va l'intéresser, c'est prendre de l'information et rester un maximum de temps pour savoir ce qui se passe. Qu'il y ait une attaque sur une centrale, sur, on en parle beaucoup, sur du réseau électrique, c'est des scénarios qui sont envisagés, qui ont été travaillés, qu'il y a des choses qui existent là-dessus, mais aujourd'hui, c'est pas la menace première, c'est pas la menace directe.
Me serais-je fourvoyé ? Si tout ceci n'est pas vraiment le risque premier, si pourtant il continue de travailler là-dessus en tant qu'expert, quelle est la vraie menace qui se cache sous ce discours ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a la guerre, pas très loin d'ici.
Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il y a une notion de risque qui est très très forte. On est dans une vraie guerre, avec des vraies conséquences, avec des vrais ennemis, des vrais gens à la fin qui meurent. S'improviser hacker, essayer de pénétrer dans des systèmes étrangers, de faire des actions qui sont illégales, puisque demain peut y avoir des conséquences pour les uns et pour les autres, et c'est pour ça qu'il faut être très très précautionneux.
Mais alors, quelle est la vraie menace qui se cache derrière ce discours ? Nous avons besoin de le savoir.
Quand on va faire de l'OSINT, donc de l'open source intelligence, quand on va prendre une vidéo par exemple qui n'a pas de localisation à première vue et qu'on va arriver grâce à des éléments logiques en regardant la vidéo, etc., à localiser la vidéo, c'est une information qui peut être très importante. Parce que si on voit par exemple sur cette vidéo qui n'avait pas de localisation de base, on voit des troupes ukrainiennes, si je balance la localisation sur Twitter 20 minutes après que la vidéo soit publiée, ça peut être une information qui peut être utilisée contre eux. C'est-à-dire que le camp adverse envoie un drone, 5 minutes après c'est terminé, tout le monde est mort. Il y a un vrai risque à faire ce qu'on fait aujourd'hui, qui est un risque qui n'est pas pour nous, mais qui est plus pour les personnes sur place. Et il y a aussi quelque chose qui est très imprégné dans le milieu technique. Il y a une guerre, on voit les images à la télé, on les voit sur nos réseaux sociaux, et on se dit « Ah, j'ai envie de faire quelque chose ». C'est pour ça qu'on a aussi le devoir de se dire, de prendre un peu de recul, de faire les choses un peu plus sur le temps long, d'essayer d'avoir une image un peu plus globale. Pour prendre de l'information, il faut se baser sur des sources, des médias qui sont, entre guillemets, reconnus et qui font un vrai travail avec une méthodologie particulière. Une fois que, effectivement, on a pris l'information qui était une information qui est arrivée toute chaude, qu'on l'a analysée, qu'on l'a travaillée, qu'on l'a sourcée, on peut expliquer de manière rationnelle aux gens que, oui, effectivement, il s'est passé ça, à telle heure, comme ça, avec tel type de missile, c'est autorisé, c'est pas autorisé, et on en est là. Après, les gens peuvent se faire un avis. Effectivement, une fois qu'on vous a fait une explication rationnelle, vous pouvez avoir peur. On est tous libres de faire. Mais en tout cas, vous avez les éléments. Et c'est ça qui est important. C'est d'avoir toutes les clés de compréhension et après, on se fait son avis.
Et comme disait Hélène Keller, la chose la pire que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais de ne pas voir. Et c'est à méditer. C'est ainsi que mon rendez-vous secret avec Baptiste Robert s'achève. Je le quitte sans être vraiment rassuré et prenant conscience des risques persistants autour de la désinformation et des potentielles actions qui peuvent s'organiser encore contre des États et des populations. Sans oublier non plus que cette guerre est bel et bien réelle, à quelques kilomètres d'ici. C'est la fin de 3W, votre podcast sur la cybercriminalité. À bientôt pour l'épisode 6. Et d'ici là, méfiance.